Europe 1, il est midi.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la une, un ballon espion chinois qui survole les États-Unis. Pourquoi faire ? Que répond Pékin ? Les dernières informations avec Thibaut Hue dès le début d'Europe Midi. Et puis on sera connecté avec le général Bruno Clermont à midi 20. Les annonces du ministre de la Santé François Braun ce matin sur Europe 1 dans la matinale de Dimitri Pavlenko. 1 million de flacons d'amoxicilline seront bientôt livrés dans les pharmacies. Céline Géraud avec nous. Et puis on parlera également du tarif des consultations médicales. La Sécurité sociale propose une augmentation d'1,50€. Les médecins sont furieux, ils trouvent évidemment que ce n'est pas assez. Quel serait le bon prix, tiens, selon vous ? Vous appelez le 3921 et on va en parler dans Europe Midi. La flamme olympique débutera son parcours en France, à Marseille pour les Jeux olympiques de 2024. On ira à Marseille retrouver Stéphane Burgat. Les vendredis thématiques sur Europe 1. Aujourd'hui, la France des Lumières dans la pénombre. 16% des jeunes croient que la Terre est plate. Comment en est-on arrivé là ? Comment en est-on arrivé à ce fiasco ? On sera avec Bruno Macquart, qui est président du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences. Il sera avec nous à 12h45. La tendance météo, c'est important aussi, Anissa Haddadi, avec encore une différence nord-sud bien nette, hein ?
Oui, cette différence nord-sud, elle sera encore bien marquée aujourd'hui, comme tout au long de cette semaine, avec au nord de la ligne Bordeaux-Chambéry, beaucoup de nuages, quelques belles éclaircies quand même sur la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. Au sud, de la Nouvelle-Aquitaine aux Alpes, en passant par le pourtour méditerranéen et la Corse, et du grand soleil, avec toujours du vent, Mistral et Tramontane, dans une douceur très agréable.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. C'est à peine croyable, un ballon espion chinois au-dessus des États-Unis, surveillant plusieurs sites sensibles. Thibaut Hue avec nous. Bonjour Thibaut.
Bonjour Romain.
Thibaut, l'objet a été photographié dans le ciel du Montana, dans le Grand Ouest américain. À quoi ressemble ce ballon ?
Eh bien, il s'agit d'un immense ballon blanc avec un diamètre équivalent à la longueur de 3 bus et des antennes satellites noires. Il dérive à très haute altitude, bien au-dessus du trafic aérien. Et pourtant, il a été très vite repéré dans le ciel par des habitants du Montana.
Je suis dans mon allée et en ce moment, il y a cette chose dans le ciel. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et ce n'est pas la Lune, puisque la Lune est à ma droite, je peux la voir.
Selon un haut responsable américain de la Défense, il ne fait aucun doute, ce mystérieux ballon est chinois et le survol du Montana, a-t-il précisé, ne serait pas un hasard. En effet, cet État abrite des installations militaires et surtout nucléaires. Le Pentagone a donc songé à abattre le ballon, opération finalement avortée à cause des risques de chute de débris. Pékin a rapidement réagi. La ministre des Affaires étrangères, Mao Ning, a assuré ce matin que des vérifications étaient en cours.
La Chine respecte toujours strictement le droit international. Quant à la question concernant le ballon, nous nous efforçons toujours de comprendre la situation et nous espérons que les deux parties la traiteront avec calme et prudence.
Des tensions entre Washington et Pékin à seulement 2 jours d'une visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Chine.
Thibaut Hue, merci beaucoup. Thibaut, notez que le Canada annonce également surveiller, je cite, un deuxième incident potentiel, à comprendre un éventuel autre ballon espion. On sera avec le général Clermont à midi 20. Dans l'actualité internationale également, ce sommet Union européenne-Ukraine à Kiev aujourd'hui. L'occasion d'aborder l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais aussi les sanctions européennes contre la Russie. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a assuré travailler à un 10e paquet de sanctions pour le 24 février, date anniversaire du début du conflit. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a de son côté promis de soutenir l'Ukraine dans son ambition, je cite, d'adhérer à l'Union européenne. Alors que la France subit depuis des semaines une pénurie de médicaments, notamment des pénuries d'antibiotiques amoxicilline. Le ministre de la Santé, François Braun, était ce matin sur Europe 1, interrogé par Dimitri Pavlenko dans la matinale. Il a promis le retour à une situation normale. Céline Géraud avec nous, chef du service Société d'Europe 1. Bonjour Céline.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
François Braun, le ministre de la Santé, entend désormais prévenir les effets de la pénurie, hein ?
Oui, et nous l'annoncions dès hier soir en exclusivité sur Europe 1. 1 million de flacons de cet antibiotique pédiatrique très demandé sur notre territoire sera livré dans les pharmacies dans les 15 prochains jours grâce à un effort considérable de l'industrie pharmaceutique française, comme le précise le ministre de la Santé.
Plus jamais ça. Plus jamais ça, cette pénurie de médicaments essentiels pendant une période hivernale où on sait qu'on en a besoin. On va revenir dans les deux semaines qui viennent à un mois de stock supplémentaire en amoxicilline. C'est le travail fait par les industriels qui ont travaillé jour et nuit, qui ont activé toute leur chaîne de production sur les principes d'amoxicilline qui nous manquaient, des dosages qui nous manquaient.
Autre annonce, l'Agence nationale du médicament en lien avec la Direction générale de la Santé va établir un plan de gestion des épidémies hivernales. Chaque hiver, le même triptyque impitoyable, grippe, grippe, bronchiolite, Covid, ça suffit.
Les épisodes d'infection, c'est tous les ans, donc maintenant on anticipe sur l'hiver prochain, quitte à faire des stocks préalables. L'hiver ne doit pas être une crise, l'hiver arrive tous les ans, ce n'est pas une crise, c'est de la prévention.
Enfin, François Braun a confirmé la mise en place d'un plan blanc médicaments en relocalisant en France la production de certains médicaments stratégiques qui seront listés d'ici la fin du mois de mai pour éviter de nouvelles pénuries.
Céline Géraud, merci beaucoup Céline. Il a parlé également du tarif de la consultation. La Sécu propose 1,50€ en plus.
Voilà.
Bon.
C'est un effort, mais en échange, il demande des contreparties. Donc le bras de fer continue.
Le bras de fer continue. On va en parler, évidemment, à midi et demi avec Agnès Gianotti. Elle est présidente de MG France. C'est le premier syndicat des médecins généralistes. Les médecins qui espéraient un petit peu plus qu'1,50€ seulement d'augmentation. Vous appelez le 3921. Vous nous dites ce que vous en pensez. Vous nous dites, tiens, quel est, selon vous, le bon prix pour une consultation médicale ? Invité de l'émission L'Événement sur France 2 hier soir pour parler de la réforme des retraites, Elisabeth Borne a assuré, sans plus de précision, qu'il faudra s'assurer que certains plans de départ volontaire ou certaines ruptures conventionnelles ne soient pas plus avantageux pour les entreprises que de garder ces seniors, le travail des seniors. On en parle beaucoup dans le cadre de la réforme des retraites. Elisabeth Borne s'est dite favorable également à un élargissement de l'index senior aux moyennes entreprises à partir de 50 salariés. Et elle n'a pas dit non à de possibles sanctions.
Cet index, il va permettre de mettre en évidence, de montrer les entreprises qui ont un bon comportement à l'égard des seniors et celles qui n'ont pas un bon comportement.
Et vous pensez que ça va suffire ?
Alors je pense qu'on doit aller sans doute plus loin et on a des députés de la majorité qui le proposent. Les entreprises dont l'index montre qu'elles n'ont pas des bonnes pratiques à l'égard des seniors, si elles n'ont pas un plan d'action, elles doivent mettre en place un plan d'action qui évidemment sera négocié dans l'entreprise. Si elles ne le font pas ou s'il n'y a pas des effets pour corriger ces mauvaises pratiques, alors il pourra aussi y avoir des sanctions.
Voilà, Elisabeth Borne, hier soir sur France 2.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est midi 7, les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1. On s'intéresse aujourd'hui au complotisme. La France des Lumières dans la pénombre, ces théories farfelues et quelquefois dangereuses agrègent une importante communauté sur Internet. Contre-vérités et théories scientifiques fumeuses sont partagées sur les réseaux sociaux et selon un sondage IFOP, un jeune sur six est persuadé que la Terre est plate. Nina Droff avec nous. Bonjour Nina.
Bonjour Romain.
Il y a de quoi sursauter en entendant cela. Et pourtant, ça fait fureur sur Internet.
Oui, en cherchant un peu, on tombe très facilement sur les contenus de ces platistes, comme ils se font appeler. Des vidéos soi-disant argumentées, expliquant avec des calculs, des graphiques, pourquoi la Terre ne peut pas être ronde. Sur sa chaîne YouTube Info Très Vrai, Marc Dan relaie de nombreuses preuves de sa théorie, comme dans cette vidéo visionnée par des milliers de personnes.
Si la Terre était vraiment une sphère, les océans devraient être en quelque sorte courbés pour se coller à tous les côtés d'une boule en rotation rapide suspendue dans l'espace. Il est tout simplement impossible de faire en sorte que l'eau se comporte de cette façon.
Et ça n'est pas tout. Toujours selon eux, la gravité n'existe pas, la Terre est un disque plat et les océans sont retenus par un mur de glace qui entoure ce disque. Une théorie même relayée par des stars comme le joueur de NBA Kyrie Irving qui comptabilise 18 millions d'abonnés sur Instagram.
J'ai fait mes propres recherches. Je trouve qu'on n'a pas vraiment de photos qui prouvent que la Terre est ronde, donc j'en arrive à croire que c'est une conspiration.
Il existe même une convention des platistes qui se tient tous les ans à Dallas, aux États-Unis.
C'est à pleurer, mais pleurer de rire ou pleurer tout court. Merci beaucoup Nina Droff. On va en parler à 12h45 avec un vrai scientifique, pas un amateur, j'allais dire. Bruno Macquart, président d'Universcience, regroupant le Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Il est président d'Universcience. Il sera avec nous à 12h45. Merci beaucoup, Nina. Symbole de l'érosion du littoral, le chantier de destruction de l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer commence aujourd'hui. Il y a 50 ans, la mer était à 200 mètres de cet immeuble. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'à une vingtaine de mètres de ce bâtiment construit en 1967. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest. Vous êtes donc à Soulac. Le Signal va, l'immeuble, Le Signal, va vivre ses dernières semaines. Hein.
Oui, dépouillé de ses fenêtres, vide, désamianté, nu, une énorme pelle de chantier à côté, prête à l'action, Le Signal va bel et bien disparaître. Habitant à Soulac, Didier est venu assister au lancement de cette destruction.
Il est seul là, sur le bord de plage, il n'a pas lieu d'être là. Quoi. Oui, c'est une verrue. Ça va nous rendre un coin vierge, avec des dunes.
Moment douloureux pour Daniel, qui possédait l'un des 78 appartements et qui estime que l'on n'aurait surtout pas dû autoriser la construction de cet immeuble.
Depuis qu'on a été évacué, tout ce qu'on a pu lire, c'était Le Signal, l'emblème du réchauffement climatique. Non, c'est l'erreur humaine et qui ne devrait pas se reproduire. Parce que quand on donne des autorisations de construire, on s'inquiète de l'historique. Moi, j'ai vraiment la rage. On a eu 70% de la valeur des appartements évaluée en 2012. Mais bon, il fallait tourner la page. Hein. L'appartement, il faisait 70 mètres carrés et on était indemnisé 129 000 euros. Alors si vous me trouvez un appartement avec vue sur mer, 70 mètres carrés avec 129 000 euros, je l'achète. Hein.
Symbole de l'érosion côtière, Le Signal sera complètement rasé dans les 3 semaines à venir, en principe.
Stéphane Place à Soulac. Merci beaucoup Stéphane. J-539 avant les JO de Paris 2024. La flamme olympique passera dans toute la France avant d'embraser la vasque olympique à Paris. La ville de Marseille était candidate pour accueillir la flamme en France à son arrivée de Grèce. Bonjour Stéphane Burgat.
Bonjour à tous.
Correspondant à Marseille pour Europe 1. Marseille où Tony Estanguet a officialisé ce matin l'arrivée de la flamme olympique dans la ville. C'est à Marseille que la flamme débutera son parcours en France. Chez vous Stéphane.
Exactement, même si elle sera tout d'abord allumée dans le sanctuaire d'Olympie en Grèce, elle va naviguer ensuite à bord du majestueux trois-mâts, le Bélem, escorté par une armada de navires. Et donc, 2600 ans plus tard, des Grecs débarqueront à nouveau dans la rade marseillaise. Voilà pour le symbole et le choix de Marseille dans tout ça. Eh bien, c'est une évidence pour le président du comité d'organisation de ces Jeux, Tony Estanguet.
Je peux vous dire que ces images-là, elles nous font rêver, on se projette déjà. C'est à Marseille que tout commence, vous pouvez en être fiers, à jamais les premiers. Marseille est tombée comme une évidence, parce que Marseille, c'est la passion du sport. Marseille, c'est cette ville populaire qu'on adore tous, avec sa richesse. Porter la flamme, c'est perpétuer son histoire.
Et le triple médaillé d'or en canoë, on s'en souvient, qui insiste sur l'importance du relais de la flamme avec ces images qui sont entrées dans l'histoire comme l'émouvant relais de Mohamed Ali en 1996. Et pour les 100 ans donc du retour de ces Jeux en France, la flamme sillonnera le pays donc entre mai et juin et juillet 2024 depuis Marseille qui, on le rappelle, accueillera 10 compétitions de voile et 10 matchs de foot de ces Jeux olympiques.
Quel événement, ça sera magnifique ouais. Stéphane. Hein
on a hâte.
On a hâte, on a hâte. Merci beaucoup Stéphane Burgat, en direct de Marseille. Le premier à avoir fait gagner Renault en F1 en 1979 grâce au moteur turbo-compressé. On a appris hier soir le décès du pilote ingénieur Jean-Pierre Jabouille à l'âge de 80 ans. D'ailleurs, si vous voulez vous offrir un morceau de l'histoire de la course automobile, eh bien... J'ai une question cet après-midi. Combien seriez-vous prêt à dépenser pour une Ferrari 250 LM de 1963 ? Pas n'importe quelle Ferrari. Hein. La Ferrari 250 LM de 1963. Si vous appartenez comme nous au commun des mortels, sûrement pas assez. Vous n'êtes pas prêt à dépenser assez d'argent parce que cette voiture, mise aux enchères cet après-midi au salon Rétro Mobile à Paris, est estimé, écoutez bien, à 25 millions d'euros. Ah oui, il faut avoir un sacré livret A, hein. Un livret A bien rempli. Le reportage pour Europe 1 d'Axel May, écoutez.
Cette berlinette de sport est bien sûr rouge, comme toute Ferrari qui se respecte, mais une bande blanche décore le toit ainsi que les capots avant et arrière. La 250 LM, LM comme Le Mans, n'a été conçue qu'à 32 exemplaires dans le monde et c'est une 250 qui a apporté à Ferrari sa dernière victoire aux 24 heures du Mans en 1965. Le modèle proposé aux enchères a comme particularité de posséder encore quasiment toutes ses pièces d'origine. Pierre Novikov est directeur adjoint de la maison de vente Arcurial Motorcars.
Ça fait 50 ans qu'une telle voiture n'a pas été présentée lors d'une vente aux enchères en France. Donc cette voiture, c'est la première voiture à moteur arrière produite par Ferrari. On parle d'un prix autour de 25 millions d'euros. Je sais que ça paraît incroyable à dire, mais par rapport à l'importance historique de la voiture, c'est un prix qui est assez raisonnable.
Le futur acheteur pourra alors faire vrombir le V12 3 litres de cette Ferrari 250 LM, mais à ce prix-là, pas certain qu'elle sorte beaucoup du garage.
Effectivement, 25 millions d'euros la voiture, on fait attention. Ferrari 250 LM de 1963. Tiens, cette information qui tombe à l'instant au sujet du tournoi Destination, première sélection avec le 15 de France pour l'ailier Ethan Dumortier. Voilà, on l'apprend à l'instant. La météo, mais avant cela, la bourse avec Didier Hameau. Bonjour Didier.
Bonjour Romain.
Didier Hameau de boursier.com. Quelle est la tendance à Paris ?
Ça baisse un petit peu. Ah. Allez, moins 0,3%, 7145 points sur le CAC 40. Ça reste haut. Hein. Après un début d'année en progression de 10%, on souffle donc, après le relèvement des taux des banques centrales américaines et européennes, comme prévu, hein, c'était mercredi et jeudi, les marchés soufflent un petit peu pour terminer la semaine en attendant la publication des chiffres de l'emploi. Ce sera aux États-Unis cet après-midi. Parmi les valeurs du jour, Sanofi recule de 3%, 84 euros après des prévisions financières 2023 moins fermes que prévues. Ça baisse un petit peu partout en Europe. C'est pas spectaculaire. Francfort, moins 0,6. Bruxelles, moins 0,5. Madrid, moins 0,2. Le CAC 40 en baisse de 0,3%. 7145 points.
Didier Hameau de boursier.com. Merci beaucoup Didier. La météo à présent avec Anissa Haddadi. Avec vous Anissa, des nuages au nord et à l'est cet après-midi.
Oui, c'est vrai que cet après-midi, le ciel se couvre de plus en plus sur les Hauts-de-France, la région parisienne et le Grand Est. Hein, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, c'est très gris avec quelques petites averses locales, de la neige à 1100 mètres sur les Vosges. Sur la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, le Nord de l'Auvergne, le Poitou-Charentes, la Vendée, on a quelques éclaircies qui se développent cet après-midi. Vous aurez la chance de voir le soleil. Puis alors sur la moitié sud, hein, rien à dire. Hein, c'est un soleil radieux dans un ciel quasiment sans nuages avec toujours du Mistral et de la Tramontane au bord de la Méditerranée. Les températures, 6 degrés à Saint-Etienne, 7 au Puy-en-Velay et à Belfort, 10 degrés cet après-midi à Reims, au Havre et à Auxerre, 11 à Lorient et Lille, 12 degrés pour Paris et Nantes, 14 à Nice et 18 à Perpignan.
Merci Anissa Haddadi. Vous le savez, le vendredi, je vous donne des conseils de podcasts Europe 1, une sélection de podcasts Europe 1 pour votre week-end. Alors, l'équipe d'Europe Midi vous a sélectionné deux podcasts pour ce week-end. Le premier, Europe 1 Studio au cœur de l'histoire sur Tchernobyl. En 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl explose, causant le plus grand des accidents technologiques de l'histoire. Dans cette mini-série inédite, en 4 épisodes du podcast au cœur de l'histoire, l'historienne Virginie Giraud raconte les origines de ce drame qui a marqué l'histoire à jamais. Premier podcast. Deuxième podcast, On de la raconte. John Wayne Gacy, je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose. Dans les années 70, dans l'Illinois, cet homme, John Wayne Gacy, a torturé, violé et tué 33 jeunes hommes. Il était surnommé le clown tueur parce qu'il avait l'habitude de se déguiser en clown pour amuser les enfants dans les hôpitaux. Ondelat raconte John Wayne Gacy. C'est à retrouver sur Europe1.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute. Restez bien avec nous dans un instant dans Europe Midi. On va parler de ce ballon espion chinois au-dessus des États-Unis. On sera avec le général Bruno Clermont, général de corps aérien. Je vais lui demander ce qu'on sait sur ce type de ballon, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que l'armée américaine ne lui a pas tiré dessus. Beaucoup de questions et les réponses du général dans un instant. À tout de suite.